Chapitre 27, Jésus trahi par l'un des siens. Je fus reporté au jour où le Christ mangea la Pâque avec ses disciples. Satan avait induit Judas en erreur en lui faisant croire qu'il était l'un de ses fidèles disciples. Mais en réalité, son cœur avait toujours été charnel. Il avait été témoin des œuvres puissantes du Sauveur, était resté à ses côtés tout au long de son ministère, et la preuve qu'il était le Messie s'était imposée à lui. Malheureusement, Judas était avide et cupide. Bref, il aimait l'argent. C'est pourquoi il exprima son mécontentement lorsqu'un parfum de grand prix fut répandu sur Jésus. Marie aimait son Seigneur. Il lui avait pardonné ses nombreux péchés et avait ressuscité des morts son frère bien-aimé. Aussi trouvait-elle que rien de ce qu'on pouvait donner pour Jésus n'était trop cher. Plus le prix du parfum qu'elle lui destinait était élevé, mieux elle exprimerait sa gratitude à son égard. Pour cacher sa cupidité, Judas prétendit que le parfum aurait pu être vendu, et que le montant aurait pu être donné aux pauvres. En fait, il ne se souciait pas des nécessiteux, mais il était égoïste et détournait souvent à son profit l'argent qu'on lui confiait et qui était destiné aux pauvres. Judas ne se préoccupait guère du bien-être du Sauveur, ni même de ses besoins. S'il parlait fréquemment des nécessiteux, c'était uniquement par cupidité. Cet acte de générosité de la part de Marie était un blâme cinglant adressé à son amour de l'argent. Satan préparait ainsi dans le cœur de Judas un chemin d'accès tout tracé pour la tentation. Les prêtres et les chefs des Juifs haïssaient Jésus, mais les foules se pressaient pour entendre ses paroles de sagesse et pour voir les miracles qu'il accomplissait. Profondément intéressés et enthousiasmés, les gens avaient à cœur de suivre ce merveilleux maître pour écouter ses enseignements. De nombreux chefs croyaient en lui, mais ils n'osaient pas l'avouer, de peur d'être exclus de la synagogue. Les prêtres et les anciens décidèrent d'intervenir pour détourner de Jésus l'attention du peuple, car ils craignaient que tous ne crussent en lui. Ils ne se sentaient pas en sécurité. Il leur fallait faire mourir le Christ, sinon, ils perdraient leur position sociale. Quoi qu'il en soit, même s'ils faisaient disparaître Jésus, ils n'empêcheraient pas que des témoins vivants continuent à proclamer sa puissance. Étant donné que le Christ avait ressuscité Lazare, les chefs du peuple craignaient que, s'ils mettaient Jésus à mort, Lazare ne continue à témoigner de son grand pouvoir. Constatant que les gens accouraient pour voir l'homme qui avait été ressuscité des morts, ces chefs décidèrent de faire mourir également Lazare, afin de mettre un terme à ce mouvement de foule. Après quoi, ils se proposaient de porter l'attention des Juifs sur les traditions et les doctrines humaines, leur prescrivant de payer la dîme de la menthe et de la rue, et pour exercer à nouveau leur influence sur eux. Les dignitaires religieux se mirent d'accord pour se saisir de Jésus quand il serait seul. En effet, s'ils avaient tenté de s'emparer de lui au milieu de la foule, alors que ses auditeurs étaient suspendus à ses lèvres, ceux-ci les auraient lapidés. Sachant à quel point les chefs de la nation souhaitaient appréhender Jésus, Judas leur proposa de le leur livrer moyennant quelques pièces d'argent. Sa cupidité le poussa à trahir son Seigneur au bénéfice de ses pires ennemis. Satan agissait directement par l'intermédiaire de Judas. Au milieu même de la scène émouvante du dernier repas, le traître méditait des plans en vue de trahir son maître. Jésus dit avec tristesse à ses disciples qu'en cette nuit-là, il serait pour eux tous une occasion de chute. Alors Pierre déclara avec assurance que même si tous défaillaient à cause du Christ, lui-même ne défaillirait pas. Mais le Seigneur lui dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Dans le jardin de Gethsémané. Je vis Jésus et ses disciples dans le jardin. En proie à une grande tristesse, il leur demanda de veiller et de prier, de peur qu'ils ne succombent à la tentation. Ils savaient que leur foi serait mise à l'épreuve, que leurs espoirs seraient déçus et qu'ils auraient besoin de toute la force qu'ils pourraient obtenir grâce à une vigilance de tous les instants, et à une prière fervente. Avec de grands cris et avec larmes, le Seigneur pria ainsi, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Le Fils de Dieu priait avec angoisse. De grosses gouttes de sang ruisselaient sur son visage et tombaient sur le sol. Des anges assistaient à la scène. Mais seul l'un d'entre eux fut chargé d'intervenir et de réconforter le Fils de Dieu au bord de l'agonie. La joie avait disparu du ciel. Les anges ôtèrent leur couronne, laissèrent leur harpe et, sans un mot, regardèrent Jésus avec une attention intense. Ils auraient aimé prêter assistance au Fils de Dieu, mais leurs chefs ne le leur permirent pas, de peur qu'ils ne soient tentés de le délivrer. En effet, le plan du salut avait été décidé, et il devait se réaliser. Après avoir prié, le Christ revint auprès de ses disciples. Mais ceux-ci s'étaient endormis. En cette heure redoutable, il ne bénéficia pas de la sympathie et des prières de ses propres disciples. Pierre, si dynamique peu de temps auparavant, était engourdi par le sommeil. Faisant allusion à ses déclarations affirmatives, Jésus lui dit : « Ainsi vous n'avez pas pu veiller avec moi-même une heure ?» À trois reprises, le Fils de Dieu pria jusqu'à l'agonie. La trahison. Alors parut Judas, à la tête d'une bande armée. Il s'approcha de son maître comme d'habitude, pour le saluer. Le groupe d'hommes encercla Jésus. Mais à ce moment-là, le Seigneur manifesta son pouvoir divin en disant : « Qui cherchez-vous ? » Ils répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus leur répondit : « C'est moi. » Aussitôt, ils reculèrent et tombèrent à terre. Le Christ avait posé cette question pour que ces hommes se rendent compte de sa puissance et qu'ils comprennent que, s'ils l'avaient voulu, ils se seraient échappés de leurs mains. En voyant que la bande armée d'épées et de bâtons était tombée si rapidement à terre, les disciples reprirent courage. Tandis que ces hommes de main se relevaient, Pierre tira son épée, frappa un serviteur du grand prêtre et lui coupa une oreille. Mais Jésus ordonna à Pierre de rengainer son épée en disant : « Ne sais-tu pas que je pourrais appeler mon Père à l'aide et qu'aussitôt il m'enverrait plus de 12 armées d'anges ?» J'ai vu que lorsque ces paroles furent prononcées, le visage des anges fut illuminé d'espoir. Car ils auraient voulu entourer sur le champ leur chef suprême et disperser cette populace déchaînée. Mais à nouveau les anges furent attristés en entendant le Seigneur ajouter : « Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» À l'ouïe de cette déclaration, le cœur des disciples fut accablé par le découragement et par une cruelle déception puisque Jésus acceptait de se laisser emmener par ses ennemis. Les disciples craignaient pour leur propre vie, au point que tous abandonnèrent leur maître et prirent la fuite. Jésus resta donc seul aux mains d'une bande de scélérats. Quelle victoire ce fut alors pour Satan! Mais quel déchirement pour les anges de Dieu! De nombreuses légions de saints anges, dont chacune avait à sa tête un chef puissant, furent envoyées pour être témoins de la scène. Ces êtres célestes avaient mission d'enregistrer toutes les insultes, toutes les souffrances imposées au Fils de Dieu, toutes les angoisses qu'il dut éprouver. Car les hommes qui furent les acteurs de ce terrible drame sont appelés à le revoir entièrement et de façon vivante.